Vous écoutez Carrière Talk, le podcast dédié 100% à propulser votre carrière au niveau supérieur. Dans cet épisode numéro 1, j'ai décidé d'aborder le sujet qui me représente le plus, dans lequel j'ai beaucoup d'expérience et surtout beaucoup de recul. Vous l'aurez deviné, la reconversion professionnelle. Comment changer de carrière? Comment trouver sa voie? J'ai fait moi-même le grand saut de reconversion il y a quelques années, de consultante TI, précisément SAP, à propriétaire d'une agence de recrutement et de placement TI. Donc je connais très bien c'est quoi être frustré et coincé dans une carrière ou une job qu'on n'aime absolument pas pendant des années, à chercher la sortie en vain, à chercher une réponse à la question existentielle « qu'est-ce que je suis censé faire dans ma vie ? C'est quoi ma passion ? Comment sortir de cette boucle de stress, d'indécision et d'ennui ?» Aujourd'hui, je reçois une invitée qui vient de France, Sonia Valente, qui est coach professionnelle certifiée. Elle accompagne tous ceux qui souhaitent changer de job à trouver un nouveau projet en accord avec leur personnalité. En parallèle, elle est rédactrice de contenu web freelance. Très curieuse et touche à tout, elle a écrit un livre aux éditions Erol, « Comment trouver sa place quand on ne rentre dans aucune case ?» Un guide pour les multipotentiels dans le monde du travail. Sachant que Sonia aussi est passée par une reconversion professionnelle dans sa carrière, donc aujourd'hui vous allez écouter non seulement les conseils d'une coach professionnelle certifiée, mais aussi deux exemples de retours d'expérience concrets sur la reconversion. Je vous laisse maintenant avec l'épisode. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Sonia, comment ça va ?
Bonjour, bah très bien, merci. Et toi ?
Bah écoute, très très bien. Je suis très heureuse pour l'épisode d'aujourd'hui parce que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur et on a déjà discuté en fait de ça lors de la dernière rencontre. Donc je suis très contente, très excitée. Je sais que ça va être un super épisode parce que voilà, on est toutes les deux passionnées par le sujet et on est passées toutes les deux par ça, j'imagine.
Exactement, oui. Je pense qu'on a beaucoup de points communs là-dessus et beaucoup de personnes, à mon avis, vont aussi se reconnaître dans ce qu'on va dire.
Très bien. Bah écoute, pour rappel, Sonia est coach en reconversion professionnelle et spécialisée aussi pour les profils multipotentiels. Alors, je pense que pour commencer déjà, parler de changement de carrière et reconversion professionnelle, c'est un super gros sujet. Moi, en tout cas, le premier point qui me vient en tête, c'était les questions que j'avais quand moi, j'étais en train de changer ma carrière. Enfin, les premières questions qui me bloquaient. Et c'était comment et quand savoir qu'on a besoin d'un changement de carrière. Moi, je bloquais vraiment là-dessus au début. Donc, je ne sais pas, est-ce que toi, tu avais la même chose ? Qu'est-ce que tu en penses ?
Ouais. Alors oui, complètement. J'avais exactement les mêmes questions qui me traversaient l'esprit. Et c'est super dur, en fait, de vraiment trouver les réponses parce que changer de carrière, tout de même, c'est un changement qui est important. On sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas ce qu'on va retrouver. Donc, c'est important de trouver un peu les réponses. Et pour le savoir, en fait, c'est très simple. Peut-être que tu vas te reconnaître par ce que je vais dire, mais l'important, c'est de faire un peu un état des lieux. Et pour le savoir, c'est simple. Il faut passer, en fait, ses émotions, ses pensées et son état physique au scanner. En gros, si tu veux, ça commence par, si on commence par les émotions et les ressentis, c'est se poser des questions probablement que toi, tu avais perçu que tu avais peut-être de la colère. Souvent, tu avais l'impression d'être agacé, un peu triste, peut-être un peu peur aussi. Du coup, tu évoluais un peu dans le travail avec des émotions et des ressentis qui étaient plutôt négatifs. T'avais l'impression d'être dans un brouillard. Je sais pas si ça te parle, mais moi, en tout cas, c'était un peu ça.
Moi, de mon côté, c'était beaucoup plus... je remettais tout sur moi, dans le sens où je me sentais bloquée, mais je me donnais pas la permission de réfléchir sur ça, parce que mon père, mes amis, la société m'a dit que « Ah non, la carrière, c'est ça. Bah, écoute, tu as travaillé dans ça, c'est toi qui l'as choisi quand tu étais jeune. Et donc, tu n'as pas le droit de te remettre en question sur ça, parce que voilà, tu as déjà fait peut-être 3-4 ans dans cet emploi. » Et donc, moi, je ne me donnais pas cette permission. Et donc, je ne me permettais pas d'aller chercher les réponses. Tu vois un petit peu c'est quoi le déclic. Et tout ça, c'était à cause des modèles de société ou bien des idées reçues qu'on a depuis longtemps, quoi.
Alors, c'est totalement vrai, c'est un des premiers blocages, mais tu as grandi avec un peu ces injonctions, ces modèles et que tu t'es pas donné la permission, tu as forcément en fait ressenti des émotions plus ou moins négatives. Ça, c'est le premier indicateur. Tu as forcément dû te dire je me sens pas bien. Donc, c'est en fait les émotions et les ressentis physiques qui trompent pas, en fait. Ce sont un peu les premiers indicateurs qui viennent te faire dire qu'il y a quelque chose qui va pas. Et puis après, petit à petit, ça se transforme en pensée. Tiens, j'ai pas envie de me lever ce matin, ou pourquoi est-ce que je fais ça ? On peut se dire aussi, je m'ennuie, ou je me sens pas à ma place, j'ai pas d'évolution possible, enfin, tu vois, tu commences à avoir un peu des pensées parasites qui occupent ton esprit. Et puis, on peut le voir aussi parce que d'un coup, tu te mets à regarder, par exemple, moi, je sais que je me mettais à regarder, par exemple, des articles de personnes qui avaient sauté pas de la reconversion. Avant, je regardais pas ça. Si j'étais bien dans mon job, pourquoi est-ce que je le faisais? Tu vois, même si je me l'interdisais, parce que moi aussi, j'avais un peu cette pression de ce modèle de carrière avec les parents, etc. Mais mine de rien, j'avais une autre petite voix dans ma tête qui me disait, bah attends, on regarde quand même un petit peu sur Internet des personnes qui ont osé le faire. Et puis après, tu le vois très vite sur l'impact que ça a sur ta santé. Par exemple, tu peux avoir des troubles du sommeil ou d'un coup, tu es plus irritable aussi, tu as une baisse de motivation. Et en fait, tout ça, quand ça dure dans le temps, eh bien, et que ce n'est pas passager, en fait, c'est là qu'il faut se dire, OK, c'est le moment, en fait. C'est le moment de changer. C'est le moment. Et c'est vrai que tu ne peux pas avoir de certitude. Changer de job, c'est toujours une prise de risque, on va dire. Tu ne sais pas ce que tu vas retrouver. Il y a une part d'inconnu, mais toujours est-il que si tu restes dans cette situation qui génère des émotions négatives, plus ça va aller, plus en fait ça va empirer. Et donc, peut-être qu'à un moment donné, tu vas frôler un épisode de burn-out, par exemple, et du coup, tu seras même plus capable de te sortir d'une situation qui, à la base, que tu pouvais très bien t'en sortir, quoi. Mais que t'as pas voulu écouter les premiers signes avant-coureurs, quoi.
Là, en fait, on a parlé un petit peu des indicateurs voilà, qui nous indiquent qu'on doit changer un carrière et on est un petit peu peut-être burn-out ou fatigué de ce cheminement. Donc, pour pouvoir travailler un peu tous ces blocages psychologiques, parce qu'en fait, une fois qu'on a identifié qu'on veut, qu'on est un petit peu dans une impasse, qu'on veut changer de carrière, le next step, c'est de travailler tous les blocages psychologiques, j'ai l'impression, non? Parce qu'après, on aura beaucoup de blocages. Ah non, je ne peux pas le faire. Peut-être, voilà, il y aura un manque de motivation de changer de carrière parce que peut-être vous avez fait 5 ans, 6 ans dans cet emploi. Donc, c'est ça, c'est comment travailler un petit peu les peurs et les croyances pour ne pas se limiter.
Ouais, c'est exactement ça, tu l'as très bien identifié. En effet, c'est le premier blocage qu'il faut arriver à faire sauter. On a tous des idées reçues, par exemple, si j'ai pas le diplôme ou l'expérience, je vais pas être recrutée si je me reconvertis, il va falloir que je recommence à zéro, j'aurais perdu du temps. Donc on a tous en fait des idées reçues ou des blocages. La première étape, c'est évidemment de les lister, d'être bien au clair sur qu'est-ce qui est bloquant aujourd'hui et qui m'empêche de sauter le pas. Donc première étape, ça va être vraiment de les identifier. Et puis ensuite, c'est de se dire est-ce qu'il existe un contre-exemple qui viendrait contredire ce que je pense? Par exemple, typiquement, si je me dis, ben moi, je crois que pour être recrutée, il faut que j'ai un diplôme et puis 5 ou 10 ans d'expérience, je pourrais très bien trouver des contre-exemples. Par exemple, on voit beaucoup d'études qui ont été faites ces derniers temps sur la montée des recrutements qui sont basés sur les soft skills ou la personnalité. Donc, on voit que oui, il y a quand même d'autres indicateurs qui sont quand même très importants dans un recrutement. Et aussi, on peut tout à fait être compétent sans être spécialiste d'un domaine. Il y a plein de personnes qui prennent une carrière, qui arrivent à trouver un job et pour autant sans compétence, sans avoir 10 ou 15 ans derrière d'expérience devant eux. Donc, l'une des solutions, c'est vraiment d'essayer de trouver des contre-exemples. Par rapport à ces blocages qu'on peut avoir et puis se dire concrètement maintenant que j'ai identifié ce qui me bloque, j'arrive à voir que potentiellement c'est pas forcément une vérité mais c'est ma vision des choses, se dire qu'est-ce que je peux faire demain pour que disons je puisse passer au-dessus, tu vois. Qu'est-ce que je peux faire? Ça va être, par exemple, se rapprocher aussi de personnes qui sont beaucoup plus positives, qui, par exemple, sont déjà passées par là et pourraient venir justifier le fait que, ben non, c'est pas, on peut tout à fait changer de job. Et puis, le temps qu'on a passé à faire des études, par exemple, moi, j'ai fait 5 ans de droit. J'ai pensé pendant longtemps que ce que j'avais fait, mais ma première expérience en tant que juriste, c'était du temps perdu. Or, en fait, c'est pas du tout le cas. On voit très bien que même si on va pas retrouver un métier proche de ce qu'on faisait, j'utilise pas mes compétences juridiques, tout ce que j'ai pu apprendre, les compétences que j'ai pu développer et qui sont transférables, je les réutilise. chaque jour.
Donc, en fait, il y a toujours moyen de retransférer quelques compétences, quelques soft skills qu'on a appris dans son ancienne carrière. Comme moi, j'étais alors là consultante TI dans un domaine qui est extrêmement technique. Alors, j'étais en informatique. Et le premier blocage, comme j'ai dit, c'est voilà, je me permettais pas de me l'avouer. Et le deuxième, c'était ah, c'est quoi ma passion maintenant? C'est quoi? C'est-à-dire, je bloquais sur la passion, bien le comment découvrir ma passion, comment découvrir la prochaine étape, la prochaine carrière qui me va. C'était ça un peu aussi le blocage de trouver la motivation. Et moi, je peux te dire que j'ai tourné en rond pendant 5 ans j'étais vraiment dans un cercle vicieux dans ça. Je suis tannée de cette carrière. J'aime pas ce que je fais. J'aime pas cet environnement. Maintenant, je sais que je dois changer de carrière, mais je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qui me passionne. Ça fait 5 ans que j'ai fait ça. J'ai fait que ça. J'ai fait que des études dans ça et je tournais dans ça. Et c'était horrible, en fait.
Ouais, c'est clair, mais je comprends tout à fait. Alors, effectivement, le fait de savoir qu'est-ce que j'ai envie de faire, en fait, maintenant, quelles sont mes passions, là, c'est vraiment un autre point qui est tout à fait logique de se questionner là-dessus, hein, quand on envisage de se reconvertir. Mais pour revenir vraiment sur, tu vois, tous les blocages psychologiques, les peurs qu'on peut avoir, c'est vraiment de se dire que aussi, enfin, on entend beaucoup, les gens se disent oui, mais est-ce que je vais pas regretter mon choix? Est-ce que on a peur en fait de ce qui va se passer à l'avenir? Mais en fait, je crois que la meilleure des solutions, c'est de se dire qu'il faut vraiment rester concentré sur le présent et pas être trop perdu entre le passé et entre le futur, parce que dans tous les cas, la situation aujourd'hui, elle est plus envisageable, elle est plus possible pour tout un tas de raisons qu'on vient d'évoquer. Je suis pas en phase avec les valeurs de l'entreprise, j'aime pas ce que je fais, etc. Donc il faut agir. Il faut vraiment agir, quoi. Et puis les croyances, il faut vraiment se dire qu'on voit les choses en fait à travers notre propre paire de lunettes, quoi. Et il y a d'autres façons de percevoir le monde du travail qui serait beaucoup plus positive et nous permettrait d'atteindre un objectif et une carrière qui nous rendrait plus heureux.
En fait, dans cet épisode, j'ai envie vraiment de donner un step by step, parce qu'en fait, on a parlé des blocages, puis j'ai l'impression que le blocage le plus important, c'est de savoir c'est quoi sa voie, c'est quoi la next step. C'est genre, c'est quoi ma passion? Qu'est-ce que je suis censée faire? Je pense que ça, c'est un des plus gros blocages. Donc, je ne sais pas si on peut donner comme une étape par étape pour découvrir ça. Parce qu'en fait, moi, en tout cas, j'ai cherché tellement, j'ai vu tellement de vidéos des coachs de vie, des coachs professionnels qui parlaient de comment trouver sa voie, sa passion. Il faut avoir une mission, il faut avoir un purpose, t'sais, genre un objectif et tout, de vie et tout. C'était très gros et ça me frustrait parce que j'avais l'impression que comment trouver cette réponse, c'était assez mystique pour moi. Et donc c'est ça, moi, comment est-ce que j'ai pris ça, en fait, mon étape par étape, je peux en parler un petit peu, comment est-ce que moi je me suis débloquée de comment j'ai trouvé ma passion, en fait, tout simplement, enfin, comment j'ai trouvé ma voie. J'ai fait un travail d'introspection, en fait. Ça, c'était la première chose que j'ai faite. Donc je me suis restée au calme, j'ai arrêté toutes les vidéos de comment trouver sa voie, comment trouver sa motivation, comment trouver sa passion dans la vie. J'ai tout arrêté et j'ai décidé juste de laisser aller. Donc, je me suis détachée complètement de ça. J'ai fait un letting go de tout ça. Et puis, les étapes que j'ai entreprises, c'était première étape, j'étais comme, j'ai besoin de savoir c'est quoi mes valeurs personnelles. Donc, vraiment, j'ai besoin de me reconnecter avec mes valeurs personnelles. Qu'est-ce qui est important pour moi? C'est quoi mes priorités? Donc, j'ai listé mes 3 top valeurs personnelles. Et je peux vous dire que c'est pas un exercice simple, hein. En fait, il y a des exercices, il y a des méthodes sur internet que vous pouvez trouver, d'ailleurs peut-être voilà, chez les coachs professionnels ils ont plusieurs méthodes pour découvrir c'est quoi vos valeurs personnelles, parce que les valeurs personnelles, c'est pas évident de les trouver. Il y a plusieurs personnes qui sont perdues parce que à défaut de ne pas se connaître et de ne pas connaître soi, on connaît pas ses valeurs personnelles. Donc c'était la première étape que j'ai faite. La deuxième étape, j'étais comme ok, maintenant c'est quoi mes forces? J'ai vraiment besoin de faire une rétrospection sur toute mon ancienne expérience, tout ce que j'ai appris, toutes mes forces, et surtout j'ai misé sur les soft skills, parce que moi en l'occurrence j'étais dans un domaine technique. Alors je peux dire que voilà, j'aimais absolument pas ça, donc ça sert à rien que j'écrive je codais bien en C#, donc là ça me servait pas. Je me suis creusé la tête pour trouver c'est quoi mes soft skills, c'est quoi les qualités que j'ai, c'est-à-dire les meilleures qualités que j'ai qui représentent ma personnalité. Donc j'ai écrit ça, et en fait c'est un exercice à écrire et ça m'a pris quand même des pages. courage. Donc ça, c'est lister mes forces. C'est super important. Par la suite, c'est lister mes faiblesses. Et pour lister ces faiblesses, c'était un peu compliqué. J'ai demandé un petit peu... Enfin, pour les deux exercices, que ce soit lister mes forces ou lister mes faiblesses, j'ai demandé aussi à mon entourage. J'ai demandé à mon partenaire, j'ai demandé à mes amis, j'ai demandé à ma famille. En fait, j'aurais demandé une question simple. Vous, en fait, vous me voyez faire quoi? C'était vraiment aussi simpliste que ça. Tu vois où? C'est quoi mon vibe, moi, en fait? Après, j'ai eu quand même quelques réponses. Et oui, c'est vrai. En fait, c'est un point de vue externe qui m'a servi. Puis, c'est ça. Et par la suite, j'ai eu à faire un exercice qu'on appelle de core needs. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais je pense que c'est les besoins essentiels, les 6 besoins essentiels. J'ai trouvé cet exercice sur Internet aussi. Et donc, j'ai fait celui-là. Les 6 core needs, les 6 besoins essentiels de la vie. Je les ai priorisés. J'ai mis en priorité qu'est-ce qui était super important pour moi dans la vie par rapport aux 6 besoins essentiels de la vie. Quand j'ai fait cet exercice-là, et je peux te dire que ce n'est pas évident, et je comprends pourquoi les gens ont besoin de coach de vie et coach professionnel de carrière surtout. Moi, je l'ai fait un petit peu toute seule, mais je ne recommande pas. J'aurais aimé le faire avec un coach, mais bon, j'avais trouvé, en fait. Donc, je me suis cassée à la tête. Tu sais, genre, ça m'a pris une année pour comprendre tout ça, alors que j'aurais pu prendre une coach de carrière et qu'elle aurait pu m'aider à faire ça en 2 heures ou en peut-être 5 heures. Donc, moi, ça m'a pris une année à me creuser la tête, des heures et des heures et des heures. pour faire tout ça. Donc c'est ça un petit peu les étapes moi que j'ai entrepris pour trouver un petit peu le changement de carrière. Je sais pas si tu as des choses à rajouter ou bien tu peux.
Alors déjà sache que tu aurais très bien pu être coach, hein. oui, en fait, c'est exactement ça, c'est-à-dire que la première étape en fait, c'est repartir de soi. On ne peut pas trouver sa direction, le job qu'on veut faire si on ne sait pas qui on est. C'est impossible. Donc en fait, t'as très bien commencé, c'est-à-dire que l'introspection est primordiale, hein. C'est impensable de trouver quelque chose si on ne sait pas en fait qui on est vraiment, et qui on est, ça passe effectivement par définir ses valeurs personnelles, et c'est loin d'être simple. En effet, c'est un exercice c'est un exercice qui est très important et que je donne par exemple dans mes coachings, et beaucoup de personnes en bottent en touchant, genre, ah, mince, c'est quoi mes valeurs, mais je sais pas, et puis on a tendance à peut-être aussi être influencé sur les tendances du moment, sur les influences familiales, qu'est-ce qu'on a entendu à la maison, puis on ne sait plus, bon, attends, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, c'est quoi mes convictions, etc. Et puis, dès qu'on a identifié ces valeurs, donc souvent aussi un bon exercice hein, pour les identifier, c'est de se replonger hein, dans ces histoires passées, une expérience bonne ou mauvaise qui a marqué sa vie, et de se dire, ok, mais pourquoi est-ce que ça m'a marqué ? Souvent, ça donne beaucoup d'indices sur les valeurs qui sont importantes pour soi. Et il y a un autre exercice, hein, si je peux en donner, c'est un exercice hyper puissant de narration qui est d'imaginer que, tu vois, t'es à la fin de ta vie et tu dois raconter un peu ton histoire de vie. Soit tu imagines un peu ton éloge le jour de ton enterrement, et en fait tu expliques qui tu es, quelle vie tu as eue, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce qui a été important, quelle personne est-ce que tu étais. Ouais. Et ça, c'est un très très bon exercice pour faire émerger aussi ce qui est important pour soi, quoi. Donc oui, les valeurs, c'est hyper important parce que si tu sais ce que sont tes valeurs, forcément, ça va t'aider non seulement à trouver un emploi, enfin à trouver un job qui soit aligné avec tes valeurs, et puis surtout pour ceux qui veulent travailler en entreprise, ça va permettre aussi d'identifier les entreprises avec lesquelles on est aligné en termes de valeurs.
Exact.
C'est hyper important aussi. Et puis effectivement, les besoins sont hyper importants parce que forcément, en fait, quand tes besoins ne sont pas satisfaits, qu'est-ce qui se passe? Ça se traduit par des émotions et des ressentis négatifs. Donc, t'es pas bien, t'es pas contente, t'es pas bien, quoi. Donc forcément, définir ses objectifs, c'est hyper important. Un bon exercice aussi à faire pour les identifier, ça va être c'est de repartir un peu de son job, de lister tout ce qu'on aime, tout ce qu'on n'aime pas, et puis d'identifier le besoin qu'il y a derrière. Par exemple, si je te dis, moi, dans mon ancien job, j'aimais bien avoir un salaire tous les mois. Ça tombait tous les mois. Derrière, le besoin, on voit que c'est le besoin de sécurité financière, par exemple. Et puis, on liste, on fait ça pour son emploi et puis pour son précédent emploi aussi. Et puis ensuite, on évalue ses besoins. Combien de fois, par exemple, le besoin de sécurité financière, il est revenu? Combien de fois le besoin de liberté, il est revenu? Et le fait de mettre, en fait, des exemples de ce qu'on a aimé, ça permet du coup de donner la définition du besoin. Parce que, par exemple, moi, le besoin de liberté, je peux peut-être donner une définition complètement différente de toi, tu vois. Donc, il faut vraiment s'approprier, en fait, ces besoins, comprendre qu'est-ce qu'on met vraiment derrière ce besoin et comment est-ce qu'on veut que ça se traduise dans son futur job, quoi. Et puis après, ouais, non, t'as super bien dit, on identifie aussi son mode de fonctionnement, c'est-à-dire comment est-ce qu'on a tendance à réagir, est-ce qu'on a plutôt un caractère introverti, est-ce qu'on est plutôt extraverti. Ça permet aussi de donner des indices sur les environnements de travail qui pourraient nous correspondre. Identifier ses forces, c'est hyper important. Je pense que tu as dû le voir quand tu l'as fait et l'exercice du feedback de l'entourage est intéressant pour ça parce que forcément, les forces, c'est ce que tu sais faire et ce que tu aimes faire aussi souvent. Donc c'est un bon moyen d'avoir des idées de pistes professionnelles, quoi, de se dire, OK, bon, ben, si j'ai aimé ça, si je suis en plus douée dans ça, qu'est-ce que ça peut donner, quoi? Comment est-ce que je peux traduire ça dans une activité?
Exact. En fait, je pense que moi, au final, après voilà, des années de blocage, je pense que c'est cet exercice, tout ce qu'on vient de citer, c'est la façon de découvrir c'est quoi sa passion. En fait, cette question mystique, ça passe toujours par la connaissance de soi, puis par la suite de faire cet exercice, hein, de le prendre au sérieux. De préférence, prendre un coach de carrière. Honnêtement, je le répète, moi, ça m'a pris 2 ans, comme j'ai dit, 1 année à 2 ans, je pense, à démêler tout ça. Puis c'était vraiment une perte de temps. J'aurais aimé d'avoir une assistance, mais je ne sais pas pourquoi je n'ai pas eu en tête de prendre un coach de carrière. Je ne sais pas pourquoi. Je suis passée par 10 milliards de blogs, 10 milliards de podcasts, mais au final, j'aurais pu très facilement trouver un coach pour m'aider dans tout ça. Mais anyway, donc pour passer, on a parlé un petit peu des étapes. J'espère que voilà, ça a servi nos chers auditeurs et auditrices parce que c'est quand même la question du siècle, la question des millennials en général, qui est de trouver sa voie.
Ouais, et puis tu vois, j'aurais quand même envie de rajouter quelque chose qui je pense, permettra d'aider pas mal de personnes. C'est se poser la question, pourquoi est-ce que j'ai envie de travailler aussi? Qu'est-ce que je suis prêt à faire? À quoi j'ai envie de contribuer avec mon travail? Parce que souvent, on s'arrête sur qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que je sais faire, sans vraiment se dire, OK, mais qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce qui me donne envie de me lever le matin? C'est un moyen aussi très bon d'arriver à identifier des pistes professionnelles. Je te donne un exemple tout bête, d'une personne que j'avais accompagnée où on voyait très bien à travers l'analyse de son parcours, des choix professionnels qu'elle a fait, qu'elle, ce qui l'a motivée, c'était par exemple d'aider, tu vois, à son cas, les personnes malades. Et on se dit, bon, mais OK, si tu veux aider les personnes malades, c'est que tu vas être médecin. Et en fait, on se rend compte que, mais non, il peut y avoir des tas de façons, en fait, d'aider les personnes. On peut très bien soigner, mais on peut aussi très bien le faire en divertissant, on peut le faire en défendant, on peut le faire, en fait, de toute façon. Et donc, en fait, c'est vraiment important de se dire à quoi j'ai vraiment envie de contribuer et pas d'être influencé par des choix qui vont être motivés par... l'argent, c'est important, hein. Mais clairement, si on fait un choix uniquement pour une motivation financière, ça va durer quoi ? 1 an, 2 ans, 3 ans, pas plus. Au bout d'un moment, on va se lasser parce que ça ne sera pas suffisant.
Je suis à 100% d'accord avec ça parce que moi, ma motivation aujourd'hui, ce que j'ai découvert, c'était vraiment d'avoir un impact positif sur les gens et de peut-être voilà, changer des vies, aider les personnes. C'était ça, la motivation qui me fait rêver chaque jour avec du peps. Anyway, c'est un super bon point. C'est vrai que l'argent, c'est absolument pas une motivation. Puis après 1 année, 2 ans, on va se lasser parce que voilà, y a pas une motivation qui est profonde. C'est vrai.
Exactement. Ouais. Ça permet pas. C'est pas dans la durée en fait. Donc ça suffit pas pour rester motivé. Donc effectivement. Et puis après, il suffit simplement d'imbriquer comme un puzzle en fait, de faire un puzzle avec ce qui nous motive. Ok, mais par rapport à mes forces que j'identifie ensuite, comment est-ce que je peux utiliser mes forces par rapport à cette motivation? Voilà. Comme tu as dû certainement faire. Quand tu étais...
Oui. Bien évidemment, par la suite, une fois que les forces sont identifiées, par la suite, il va falloir aller lister un petit peu tous les métiers qu'on peut faire qui sont en concordance avec ces forces-là. Comme si vous êtes... Moi, je suis un petit peu extravertie, j'aime parler, j'aime la conversation, j'aime quand c'est dynamique, j'aime l'interaction avec les humains, j'aime l'aspect humain. Donc, j'étais comme, OK, ben, c'est normal que je vais être peut-être dans un travail qui va demander un peu de marketing et qui va demander beaucoup d'interaction. interaction avec les autres, qui va demander peut-être un peu de vente aussi. Donc, c'est ça un petit peu qui m'a dirigée vers mon métier de recruteuse. Puis, il y avait aussi d'autres forces qui m'ont dirigée un petit peu vers le métier d'entrepreneur. Enfin, mais après, j'ai toujours entrepris depuis que j'ai jeune, c'est-à-dire même quand j'étais dans mon travail. Donc, c'est ça. Donc, ça, j'ai mixé les deux. J'étais comme, OK, le recrutement, il y a un gros aspect humain. Il y a les relations humaines. C'est assez dynamique. Ça bouge. C'est assez intense. Donc, il n'y a pas une routine. Donc, ça me convient. Je suis un peu extravertie. Donc, tout le côté marketing, je peux le faire. Tout le côté création de contenu, branding et tout, c'est quelque chose qui me passionne et j'ai trop envie de le faire. Donc. Et il y a aussi le côté entrepreneur. Donc, j'ai mixé les deux. Donc, j'ai créé mon agence de recrutement. Donc, c'était ça un petit peu mon parcours. J'ai un petit peu parlé de toute ma reconversion sur ce podcast. Mais bon, je pense que ça peut servir aussi pour les gens qui nous écoutent de donner des exemples comme ça qu'on crée. Ça peut donner peut-être des idées.
Exactement. C'est aussi le partage d'expérience qui permet de rendre ça concret, hein, rendre la méthodologie concrète de comment est-ce qu'on fait pour se reconvertir. Exactement. Et puis, c'est très juste aussi parce que tu viens de pointer du doigt aussi un peu à partir de tout ce travail d'introspection qu'on fait. Au final, quel mode de travail est-ce qui me correspond? Est-ce que je vais partir du coup dans l'entrepreneuriat? Est-ce que je vais partir dans le salariat, le slashing? Tout ça, c'est des réponses auxquelles on a quand on a fait ce travail d'introspection. Hein.
Puis, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce qui est slashing? Parce que la dernière fois, tu m'as parlé, j'étais comme slashing, c'est quoi ça?
Oui, en fait, c'est quand tu cumules des activités. Par exemple, tu vois, moi, j'ai mon activité de coaching, mais en parallèle, je fais de la rédaction de contenu en freelance. Donc, je bosse pour des boîtes, par exemple des startups ou autres, et puis je rédige des articles où j'interviens sur la stratégie de contenu. Donc, en fait, je mixe des activités. Et ça peut très bien être, par exemple, moi, c'est deux activités entrepreneurs, mais j'aurais pu très bien me dire, j'ai besoin d'une stabilité financière. Peut-être qu'un CDI, ça m'apportera ça. Donc, je vais trouver un CDI à mi-temps ou peu importe le temps, tu vois, à temps partiel. Et puis, à côté, je vais développer mon activité entrepreneur. Donc, c'est un peu comment est-ce que je peux composer quand j'ai beaucoup d'intérêt, quand il y a plusieurs choses qui me plaisent. Comment est-ce que je peux composer tout ça et souvent, le mode de travail cumule l'activité slashing et un bon compromis.
J'ai vraiment voulu parler des profils multipotentiels. Je trouvais ça quand même assez intéressant parce qu'il y a plein de monde peut-être qui connaissent pas ce terme, ils connaissent pas c'est quoi la définition et comment s'y reconnaître aussi.
Ouais, c'est vrai. On commence à en entendre un peu plus parler en ce moment. En fait, si tu veux, jusqu'à il y a un certain temps, c'était un terme qui était autrefois utilisé comme synonyme pour parler des gens qui étaient surdoués. Et puis, en fait, ça s'est complètement détaché de ça. Et aujourd'hui, c'est vraiment un concept à part entière dans le monde du travail et qui caractérise en fait les personnes qui vont avoir une grande curiosité pour de nombreux sujets qui n'ont pas forcément de lien entre eux, donc des grands domaines qui vont passer d'un sujet à un autre, que ce soit dans leur loisir, mais aussi dans la vie professionnelle. Et donc, ces personnes-là, ce sont des personnes qui vont avoir souvent des difficultés à s'orienter quand il faut choisir dans quoi est-ce que je vais faire des études, j'ai pas de vocation, moi, il y a tout qui m'intéresse. C'est des personnes, en fait, qui n'envisagent pas du tout la carrière comme on nous l'a présenté jusqu'à maintenant. Par exemple, tu vas faire des études, tu vas te spécialiser et puis ensuite, tu vas faire ta carrière, tu vas gravir les échelons comme ça. Et là, en fait, ces personnes-là, elles ont envie plutôt de toucher à tout et de faire plusieurs métiers, tu vois, dans une vie. Donc, on les reconnaît aussi parce que ce sont des personnes qui vont aimer la nouveauté, découvrir quelque chose. Donc, elles aiment beaucoup, elles s'ennuient rapidement et donc, du coup, elles aiment bien le changement, si tu veux. Et puis, on voit qu'en fait, ces profils-là, donc on voit c'est quand même des caractéristiques très personnelles, on voit que c'est devenu même carrément un phénomène socio-professionnel parce que on assiste, hein, tu vois, depuis maintenant plusieurs années à une transformation du monde du travail. Avant, les carrières, elles étaient très linéaires, on faisait le même job, on travaillait souvent dans la même entreprise. Et puis maintenant, avec le développement de l'intelligence artificielle, la robotique, le digital, tout ça fait qu'il y a plein de métiers qui disparaissent et qui d'autres émergent. Et ça, c'est à une vitesse complètement folle. Donc en fait, aussi, le fait qu'aujourd'hui, on puisse accéder à la connaissance depuis son canapé, fait que on est très tenté d'apprendre de nouvelles choses, de découvrir de nouvelles choses. Tout est accessible. Donc, il y a vraiment un phénomène où les jeunes ne se reconnaissent plus du tout aussi dans cette carrière linéaire où il fallait choisir un métier et s'enfermer dans une case. Et ils ont envie d'être complètement maîtres de leur carrière et se dire « Ok, mais moi, demain, j'aurais peut-être envie de faire autre chose. » Et je le sais. Donc, je veux pouvoir explorer différents domaines. Et donc, voilà, c'est des profils qui vont avoir tendance à changer, à avoir envie de changer de métier, de changer de pas forcément des fois à 360, hein, mais de changer régulièrement d'emploi.
Et j'ai envie de dire aussi que c'est normal d'être multipotentiel parce que la plupart des gens vont se juger et dire « Ah non, moi, j'arrive pas à me caser dans une carrière, j'arrive pas à me caser dans un emploi, je suis pas normale, je suis peut-être pas bonne dans ce que je fais, etc. » Et j'ai envie de dire que tout ça, c'est des croyances limitées parce que c'est pas vrai. Si on est multipotentiel, c'est qu'on l'est, il faut l'accepter. S'il y a besoin de changer de carrière chaque 5 ans, chaque 10 ans, 3 ans, ben il faut le faire, ben quitte à le faire pour être heureux, c'est tout.
Ouais. Exactement. Et puis à partir du moment où on a une méthodologie, on sait comment faire, on sait par où commencer, où est le problème. Et puis en plus de ça, les entreprises, plus ça va aller, plus elles vont devoir aussi évoluer avec cette tendance, hein, puisque comme on l'a dit, les métiers ils évoluent très vite, les postes ils sont aussi, en tout cas dans les fonctions support, de plus en plus transversaux et polyvalents. Donc les entreprises elles s'attachent de plus en plus. J'ai vu une dernière étude là justement ce matin sur un post LinkedIn où alors c'était en décembre de 2020 où Uno, je sais pas si tu connais la plateforme en ligne qui propose des formations plutôt sur les soft skills, qui disait que plus de 45% des entreprises recrutaient sur la base des soft skills. Donc, c'est quand même fou, quoi. Et justement, ces personnes-là qui multipotentielles, qui aiment apprendre, qui aiment découvrir de nouveaux sujets, qui aiment faire des formations, qui sont très curieux, qui changent beaucoup d'entreprise ou d'environnement, ben, ils ont plein de soft skills, du coup. Ils sont adaptables, ils ont une créativité, du coup, ils sont pas fermés au changement. Donc, c'est des gens qui, en tout cas, sont...
Aussi, qui ont aussi la capacité d'apprentissage qui est très rapide. La plupart sont autodidactes. Et moi, honnêtement, j'ai pas envie de polariser dans ce podcast, mais j'ai envie, ma préférence personnelle, j'aime bien les profils multipotentiels, personnellement, parce que c'est des personnes qui vont être super ouvertes à apprendre des nouvelles choses. Et dans une réunion, moi, j'ai envie de te dire que j'ai rencontré beaucoup de monde qui sont super fermés dans leur métier, dans leur maîtrise, dans leur niche. Ils n'ont pas envie d'apprendre. Et dès que tu sors un peu de leur domaine, de leur sous-domaine, ils sont complètement perdus, ils n'ont pas envie d'apprendre, ils n'ont pas envie d'entendre, tu sais, genre ils sont complètement fermés. Par contre, les multipotentiels, il y a cette ouverture, il y a ce sens de prise de l'initiative, franchement, moi, je les admire vraiment beaucoup, les profils multipotentiels, voilà.
D'ailleurs, tu as dit quelque chose de très juste, hein, un constat que tu as fait, c'est les personnes qui sont réfractaires au changement, qui n'aiment pas trop qu'on les bouscule dans leur habitude, voilà, ils ont leur petit job, leur petite routine du travail. Ces personnes-là, ce qui va se passer, c'est qu'elles vont devoir changer parce que sinon, c'est l'entreprise qui va décider de leur carrière, puisqu'on voit que tellement les emplois changent vite dans une même entreprise. Si demain, tu vois que ton collaborateur, il est fermé, qu'il n'est pas proactif dans sa carrière, bah, ce qui va se passer, c'est que soit l'entreprise, elle va décider pour lui, soit, il va être mis à la porte.
Mmh, exactement. Mais franchement, je tiens encore à le redire qu'il faut vraiment casser les préjugements sur les multipotentiels. Il faut aussi se libérer des croyances limitées en fait qu'on a sur soi, spécialement quand on est multipotentiel, quand on se dit voilà qu'on est bon à rien faire, qu'on n'est pas bon et tout, mais au final on est en train de dire complètement le contraire et qu'on est en train de dire qu'il y a vraiment les champs d'opportunités et de possibilités qui s'ouvrent au multipotentiel est quand même assez énorme. Et je pense que c'est super intéressant, donc il faut vraiment pas se juger spécialement, ça c'est le premier point, ne pas se juger quand on est multipotentiel, puis de deux, d'être en paix avec ça et de l'accepter et de lâcher prise, je pense.
Exactement. Et puis, c'est vraiment une force, hein. Je le crois vraiment, puisque j'ai pu faire des tas de recherches quand j'écris le livre, tu vois, sur les profils multipotentiels. Et c'est une vraie vérité, hein. Ils sont bourrés de préjugés en se disant, bah, je suis instable, j'ai plein de compétences, mais je suis spécialiste de rien. Mais non, tout ça, c'est vraiment des idées reçues. Et on peut tout à fait construire une carrière à son image en changeant plusieurs fois de job et être épanoui.
Puis parlons de ton livre sur les multipotentiel, est-ce que ça va sortir bientôt? Est-ce que c'est déjà sorti?
Non, ça sort le 4 février. Ouais, le 4
alors, ça
février.
Sort le 4 février. Sur cet épisode, en barre d'infos, je vais laisser ton compte de LinkedIn. Fait que les gens vont pouvoir aller voir, puis peut-être se familiariser avec ton contenu, mais aussi avec ton livre, peut-être à la sortie. Donc, super. Ben, écoute, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as envie d'ajouter par rapport au sujet d'aujourd'hui?
Bah écoute, non, je crois qu'on a quand même parlé de tout. On a parlé des croyances. Donc non, je pense qu'on a fait le tour. Voilà, il faut vraiment pas être. Si je terminerai parce que j'ai lu un truc hyper intéressant, je sais pas si tu connais, c'est une femme, j'avais déjà lu ça justement quand j'étais en train de réfléchir à ma reconversion, que j'étais encore en poste. J'étais tombée sur un article d'une infirmière qui bossait en réanimation, je crois, ou en soins intensifs, et qui avait écrit un livre. Elle avait répertorié en fait tous les regrets des personnes qui étaient en fin de vie. Et en fait, elle avait fait une liste de 5 regrets. Et dans cette liste, sur les 5, il y en a 2 où justement, ça tourne autour de ça. Ça tourne de si j'avais su, j'aurais osé changer de job, j'aurais pris plus de risques. Personne ne regrette d'être resté dans un job qui est confortablement inconfortable, si je peux dire.
Exact. Et je pense qu'on va finir là-dessus. Donc, le mot de la fin, ça va être oser de changer sa carrière. Et oser un petit peu de casser les codes et puis de se renouveler, de renouveler sa carrière. Ben écoute, merci beaucoup Sonia, ça m'a fait vraiment plaisir d'enregistrer cet épisode avec toi. Et puis
je dis à
tout le monde, merci pour votre écoute et je vous vois dans un nouvel épisode.
Si cet épisode vous a plu, je vous encourage à le partager sur vos réseaux sociaux et à laisser 5 étoiles au podcast sur votre application d'écoute. C'est ce qui nous permettra de continuer à partager toutes ces informations et connaissances gratuitement avec vous. Je vous encourage aussi à me suivre sur LinkedIn, Radia Abdi, et sur Instagram, @kiprad. Toutes ces informations sont disponibles en barre d'infos. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très vite.